troisième et dernier temps de notre série sur l'histoire du textile dans la fabrique de l'histoire. Nous parlons aujourd'hui des indiennes et autres tissus venus d'Inde à l'époque moderne. Nous allons aborder ce matin un des effets de la mondialisation du commerce, le formidable engouement pour les tissus venus d'Inde qui, à la grande surprise des compagnies de commerce, devinrent la principale marchandise transportée entre l'Asie et l'Europe au XVIIIe siècle, au point de faire peur aux entrepreneurs français qui les firent interdire. Madame de Pompadour, avec d'autres, obtint en 1759 que leur importation fût à nouveau autorisée. Entre-temps, la contrebande avait fait rage et ces tissus étaient parvenus en France sous le manteau. Cette interdiction a permis en particulier à des industriels étrangers, où l'interdiction n'était pas active, des Britanniques, des Allemands et des Suisses, de se perfectionner dans cette production. C'est ainsi que Christoph Philipp Oberkampf, allemand du Württemberg, profita de l'autorisation des toiles peintes au milieu du 18e siècle pour inventer la manufacture de Jouy en Josas et perfectionner cette toile de Jouy. Nous en parlerons avec Séverine Yattard, qui a préparé toute cette semaine avec nous, avec des textes qui seront lus pour nous aujourd'hui en direct par Daniel Königsberg et commentés par Brigitte Nicolas. Elle est conservateur de musée, du musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis, en face de l'Orient, et avec Aziza Grill-Mariotte, elle est historienne de l'art et auteure des Toiles de Jouy, histoire d'un art décoratif 1760-1821 aux presses universitaires de Rennes. Mais tout de suite, un nouvel épisode de notre feuilleton, la fabrique de l'histoire scolaire préparée par Séverine Yattard.
Charlemagne, fils de Bépère le Bref, 1668-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie.
Des dates, cet empire, oh, tout est prévu.
Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez?
Des dates, cet empire, oh, tout est prévu.
Est-ce que vous me voyez?
La fabrique de l'histoire scolaire.
Vous m'écoutez, s'il vous plaît?
Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre.
Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui.
Dans le cadre du parcours Citoyenneté et Histoire de l'immigration, organisé par le Musée d'Histoire de l'immigration et la Mairie de Paris, les élèves de CM2 de l'école Romainville viennent aujourd'hui visiter l'exposition Ciao Italia. La conférencière Christina Oliossi les accompagne.
Alors, serrez-vous, venez, il y a de la place ici. Vous ne voulez pas vous asseoir? Derrière moi, il y a un tableau d'un peintre qui s'appelle Tomasi. C'est un peintre qui a travaillé à la fin du 19e siècle, mais aujourd'hui, il n'est pas très connu. Alors, c'est un tableau qui est souvent représenté dans les manuels scolaires en Italie, quand on parle d'émigration. Émigrer, c'est sortir, immigrer, entrer. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça raconte, ce tableau? Oui?
On a l'impression que c'est soit des gens qui attendent dans un port pour aller ailleurs, beaucoup de gens, soit des gens qui arrivent d'ailleurs.
Ah, soit qui partent, soit qui arrivent.
Je pense qu'ils vont partir dans un autre pays pour émigrer. Pour immigrer, pardon.
Alors.
Immigrer ou immigrer?
Alors, émigrer, c'est partir. Immigrer, c'est venir.
Ah,
émigrer. Émigrer, ouais. Et toi?
Moi, je pense qu'ils sont arrivés parce qu'ils ont l'air déçus de l'endroit où ils sont et qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture. On voit là-bas, il y a un monsieur qui demande, qui est comme ça, en train de demander ici, ils n'ont pas beaucoup de nourriture. C'est qu'en partant, ils ont dû tout manger.
Ouais. Je pense qu'ils sont partis parce qu'il y a un quai. Donc je pense qu'ils vont prendre le bateau parce qu'il y a plein d'affaires et qu'ils vont prendre les bateaux pour partir.
Alors en fait, ce sont des gens qui partent. Hein, c'est un port qui se trouve en Italie du centre, hein, dans une ville qui s'appelle Livourne. Hein, et donc le peintre vient de cette ville-là. Hein. Alors, est-ce que ce tableau nous explique pourquoi il décide de partir?
Moi, je pense qu'il souffre.
Il souffre?
Oui, il souffre.
Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Parce qu'il dort par terre déjà.
Il dort par terre, oui.
J'ai l'impression qu'ils ont plus d'argent et que du coup, ils ont quitté l'Italie. Ouais. Là-bas, on voit des personnes, je sais pas c'est qui, je pense que c'est des gens qui vont causer leur malheur, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il y a une femme juste là qui est comme ça, comme si, oh non, là, qu'est-ce que j'ai fait. Et voilà.
Est-ce qu'elle est triste, cette dame? Qu'est-ce qu'elle regarde, en fait? C'est la seule dame qui est tournée de notre côté. Hein? Qu'est-ce qu'elle est en train de regarder? Si ces personnes sont en train de partir.
Elle nous regarde.
Elle nous regarde.
Elle est nostalgique.
Elle est nostalgique. Elle regarde ce qu'elle est en train de quitter, en effet. Ah, qu'est-ce que ça raconte encore, ce tableau? Vous voyez, il y a des familles entières. Ah, cette maman avec son bébé. Vous voyez, il y a des hommes, il y a des femmes. Ben, ça raconte que ben, ces gens ne partent pas seuls, ils partent avec leur famille. Donc il y a des familles entières qui partent. Ah. En fait, ben, l'immigration italienne, ça veut dire beaucoup de personnes qui ont commencé à se déplacer en nombre donc, à la fin du 19e siècle. Et ça n'a pas arrêté hein, jusqu'au début des années 60, hein, du 20e siècle. Alors, oui?
Comment s'appelle ce tableau?
Comment s'appelle ce tableau? Ben, j'ai oublié. J'ai oublié, alors tu vas chercher, toi, tout de suite, le cartel. Tu cherches. Où est-ce que ça pourrait être le cartel qui nous donne... Ah ben voilà. Alors, gli emigranti, ça veut dire les émigrants.
C'est Angelo Tommasi.
Angelo Tommasi, voilà. Donc les émigrants, voilà. Est-ce que ça nous raconte autre chose? Alors je vais vous dire. Vous voyez que ces personnes, hein, les femmes, ont des foulards. Il y en a qui ont des foulards noués sous le menton et il y en a qui ont des foulards qui sont noués sur la nuque. Et puis les foulards ont des couleurs différentes. Vous savez que dans chaque région d'Italie, ben, les femmes s'habillent de manière différente. Et donc ça raconte que ces personnes venaient de toutes les régions d'Italie. Pas seulement du nord, du sud, du centre, mais c'est toute l'Italie qui se met en marche. Est-ce que ça raconte autre chose?
Une femme qui prie, elle prie avec son chapelet?
Ouais, peut-être.
C'est quoi ce truc?
Elle se demande dans sa tête qu'est-ce qui va se passer là-bas et elle prie pour que ça aille.
Et puis vous avez vu, il y a des personnes de tous les âges aussi. Très bien. Allez, on va avancer. Avancez un peu, mais ne touchez pas.
C'est
des fausses. Le type de scooter s'appelle Vespa. Vous savez ce que ça veut dire, Vespa?
Non.
C'est un nom italien, ça veut dire guêpe.
Guêpe.
C'est quoi le rapport?
Alors, c'est quoi le rapport avec l'Italie?
Voilà pour ce nouvel épisode de notre feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide qui donne espoir dans ces jeunes élèves de CM2 visitant l'exposition Ciao Italia au musée de l'immigration de la Porte Dorée à Paris. Vous pouvez bien évidemment télécharger séparément cette émission et ce reportage donc dont la prise de son était assurée par Michel Gassic et la réalisation par Véronique Samuilov séparément du reste de l'émission de ce jour.
On vit des personnes de qualité s'affubler de tapis des Indes que, fort peu de temps auparavant, leurs femmes de chambre auraient trouvé trop vulgaires pour elles. Les Indiennes reçurent de l'avancement. Elles montèrent du parquet des élégantes sur leur dos. De tapis, elles devinrent jupons.
Un extrait d'un texte de Daniel Defoe daté de 1708, le père de Robinson Crusoe, pratiquant son regard un peu acerbe sur cette mode des Indiennes. Bonjour à vous, bonjour Séverine Attard.
Bonjour.
Bonjour à vous, Aziza Green-Mariotte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et bonjour Brigitte Nicolas, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, il faut peut-être, au tout départ de cette émission, nous expliquer ce que sont ces indiennes, qu'on utilise habituellement comme un terme générique de tous les tissus exotiques venant d'Asie et d'Inde en particulier au XVIIe, XVIIIe siècle. Alors, quand on vous lit, on s'aperçoit que ça n'est pas le cas. Vous êtes conservateur du musée, justement, de la Compagnie des Indes à Port-Louis, près de Lorient, en face de Lorient. Et c'est là où vous en conservez, je crois, 9 pour l'instant, c'est ça?
Ah, un peu plus.
Un peu plus
par rapport à ce que vous avez pu lire. Oui, oui. La collection est en constitution parce que, en effet, quand je suis arrivée dans ce musée il y a maintenant 14 ans, en regardant les archives de la Compagnie des Indes, j'ai vu que la principale branche de commerce de cette compagnie, c'était le textile indien. Or, il n'y avait pas quasiment, enfin, il n'y avait aucun textile indien pour illustrer cette formidable branche de commerce assez méconnue du grand public, à vrai dire.
On avait donc plutôt des porcelaines chinoises, en l'occurrence.
Absolument.
Alors que ça n'était pas la principale, le principal trafic venant d'Asie en particulier.
Non, on voit très clairement, en fait, alors au départ, les porcelaines sont très importantes, les porcelaines de Chine, mais on voit vraiment une augmentation quasiment exponentielle de l'importation des textiles indiens, puisque lorsque la compagnie française entre en action, elle est la dernière par rapport à ses concurrentes anglaises et hollandaises, eh bien le commerce des textiles indiens est déjà quasiment à son acmé en Europe.
On est à quelle période à peu près ?
Alors la création de la compagnie française c'est 1664, donc on est vraiment au moment où l'indienne justement va devenir extrêmement à la mode en Europe, mais ces indiennes finalement c'est, j'emploie cette expression, le bosquet qui cache la forêt, puisque ce n'est pas vraiment les marchandises principales de textiles. Hein, ça va être plutôt les cotons blancs et les mousselines. Mais c'est vrai que l'importance de ces indiennes est telle que l'histoire a retenu ce nom un peu générique. Mais alors ces indiennes, qu'est-ce qu'elles sont en vérité et pourquoi elles plaisent tant ? Ce sont des toiles de coton qui sont imprimés selon les techniques de l'impression sur étoffe. C'est-à-dire que les Indiens avaient découvert d'une façon empirique, au cours de 2000 ans à peu près, la méthode du mordançage, qui permet en fait de faire imprimer la garance au cœur de la fibre de coton, et la technique de la réserve pour éviter que l'indigo en fait s'impose sur toute la toile lorsqu'on la trempe dans une cuve d'indigo. Vraiment, ce sont ces deux techniques, mordançage et réserve, qui font ces
toiles colorées.
Voilà, ces toiles colorées. Et il faut imaginer qu'en fait en Europe vers 1660, on ne maîtrise pas complètement cette technologie, notamment on ne maîtrise pas la réalisation d'une toile de coton suffisamment fine, suffisamment plane pour que les motifs puissent s'imprimer correctement.
Alors, on ne sait même pas tisser en fait le coton, enfin c'est plutôt du lin, du chanvre, mais c'est
alors,
pas,
ce
le
sont
coton
des
n'est pas le, le.
Ce sont des armures mixtes. Déjà, le coton, c'est une plante qui est originaire de l'Inde. Donc, c'est vrai que c'est pas une plante que l'on trouve en France. Donc, la technologie pour créer ces armures pures de coton, qui sont nécessaires vraiment à l'impression des indiennes, arrivera assez tardivement et sera retardée finalement parce que il y aura cette prohibition de l'indienne dont on va parler tout à l'heure.
Alors, si je vous dis tous ces noms, Garas, Salempouri, Guingamp, Bafta, Aléga, Soucy, Cotoni, Choukélas, Chalbaf, Elatcha, Circassas, Tepais, Pinas, Chit, Bujatapo, Neganepo, Koupi, Chasla, Korots. Tout ça, ce sont des noms que portent tous ces tissus qui ne sont pas les mêmes, en fait.
Voilà. En fait, il faut bien comprendre que tous ces noms de textiles indiens que je retrouve dans les archives de la Compagnie des Indes et qui étaient au départ une vaste énigme pour moi, je peux vous l'assurer, eh bien, représentent des catégories de textiles qui vont être importées par cette Compagnie des Indes. Il y a d'abord et avant tout les toiles de coton blanche, donc les bafta par exemple, ce sont des toiles, on va dire, ordinaires. Les guinées, les percales vont être des toiles très fines. Les garas sont des toiles grossières.
Alors, ce qui veut dire aussi qu'il y a des toiles qui sont destinées à des catégories de clients très différents. Les garas plutôt pour des gens plutôt pauvres, enfin disons pas très riches, et les percales ou les mousselines pour des clients qui sont beaucoup plus élevés dans l'échelle sociale.
Oui, on peut imaginer ça, mais c'est aussi l'usage qu'on en fait, bien sûr. Vous voulez. Hein, par exemple, les garas vont pouvoir servir de langes, vont pouvoir servir aussi de torchons, de serpillères. D'ailleurs, c'est une branche de commerce qu'on n'imagine pas, puisqu'on on associe beaucoup la Compagnie des Indes au commerce de luxe, mais finalement, certains commis de commerce disent bien que ce qui rapporte le plus, c'est les marchandises les plus ordinaires, en fait. Et donc, c'est parmi les marchandises que vous citiez tout à l'heure, il y a aussi les mousselines blanches. Alors, les malmols, les casses, les tanjebs sont des marchandises qui sont extrêmement chères. Elles sont d'ailleurs beaucoup plus chères que les fameuses indiennes dont on reparlera. C'est ça que l'on imagine mal aujourd'hui, puisqu'une indienne, en moyenne, va coûter 40 livres. Certaines vont être à 17 livres. Hein, dans les archives de la Compagnie des Indes, on trouve les billets d'adjudication de la grande vente en septembre à Lorient. Et par contre, les amateurs vont s'arracher des tanjebs à 120 livres. Il faut rapporter ça au salaire d'un matelot de l'époque, qui est de 20 livres mensuels. Donc vous imaginez, c'est 5-6 fois le SMIC aujourd'hui pour une belle robe en mousseline brodée d'or.
Et on imagine ce que faisait justement cette vente et cette adjudication dans le port de Lorient, que vous venez de nous rappeler, quand on imaginait ces lointains qu'était justement cette Inde dont parlait le François Lestra, son voyage aux Indes orientales. C'est un texte de 1671-1675.
C'est de la ville de Trangbar et de la côte de Coromandel que viennent les plus belles chites et autres toiles rayées et à fleurs de toute façon, dont on voit une si grande abondance en France. La plus fine toile vient du Bengale, que l'on met en ouvrage à Masulipatam, où l'on mesure les étoffes à coudées ou à brasses. Une pièce d'étoffe rayée ou à fleurs, de quelle couleur que ce soit, de 15 ou 16 coudées, n'y coûte qu'un écu. Un bon matelas de Watt, qui vaudrait en France 20 écus, n'en vaudra que 2 à Trangbar. Une belle robe de chambre à fleurs très fines, 40 sols. Une brasse de très belle toile et très fine, 5 sols.
Si Brigitte vous expliquait, Brigitte Nicolas, qu'il y a 3 grandes régions en fait de production des indiennes. Donc, je crois qu'il y a le Bengale, le Gujarat, et puis le dernier endroit, c'est
La côte de Coromandel.
Voilà, tout à fait.
Absolument. Et voilà.
Ce sont des régions aussi qui sont expérimentées en fabrication de ces indiennes et en technique de teinture.
Oui, alors on peut dire que l'Inde, c'est vraiment un sous-continent qui produit du textile partout sur son territoire. Mais c'est vrai que les régions de production des indiennes, principalement, sont le Gujarat, la côte de Coromandel surtout, et c'est elle qui va devenir vraiment le grand centre de production au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et puis le Bengale, plutôt pour ses toiles qui sont nécessaires à la confection des indiennes, et ces mousselines qui sont vraiment extraordinaires dans la région du Bengale, de Dhaka notamment. Et ce sont dans ces 3 régions que les compagnies des Indes européennes vont s'installer. D'abord, le premier comptoir de toutes les compagnies, ça va être Surat dans le Gujarat, pour avoir accès à cette production d'indienne. Mais les productions du Gujarat, d'après ce que nous disent les textes anciens, vont être de moins grande qualité que celles de la côte de Coromandel, où par exemple, les Français vont s'installer bien évidemment à Pondichéry, non loin par exemple de Paliakat, qui va être un centre extraordinaire de production de ces fameux mouchoirs de Paliakat que l'on connaît nous maintenant sous le terme de madras, et qui sont vraiment importés en nombre par la Compagnie des Indes. Certaines années, on en dénombre 40 000 à Lorient. Donc vraiment, la côte de Coromandel est très importante. D'ailleurs, quand il y a des conflits avec les Britanniques, ce qui ne manque pas d'arriver au XVIIe et au XVIIIe siècle en Inde, dans les traités, moi, j'ai retrouvé des archives qui disent qu'il faut absolument avoir accès à la rivière de Yanaon, donc c'est sur la côte de Coromandel, parce que cette eau-là permet de laver, de rincer les toiles qui vont permettre d'avoir la qualité, l'éclat des couleurs pour les Indiens. Donc vous voyez, ça figure dans des traités, de fin de bataille entre les Anglais et les Français, c'est dire l'importance de cette côte de Coromandel dans cette production.
Et ça veut dire, Brigitte Nicolas, que vous venez de le mentionner, il y a des bagarres entre toutes ces compagnies des Indes, britanniques, françaises et hollandaises. Est-ce qu'on sait sait si il y a des goûts particuliers, c'est-à-dire est-ce qu'on sait s'il y a une direction particulière des commerçants français pour tel ou tel tissu par rapport à des commerçants britanniques ou des commerçants hollandais? Est-ce qu'il y a des filières, pourrait-on dire, qui intéressent plus les uns et moins les autres?
Alors, par exemple, on sait que les Portugais qui sont arrivés les premiers en Inde, hein, c'est les pionniers qui vont ouvrir la voie ensuite aux autres Européens, eh bien, eux vont importer un type de textile que l'on trouve moins, par exemple, en France. Ce sont des toiles brodées, des couvertures ouatées et brodées, piquées, avec notamment une iconographie, je dirais, cinégétique. On trouve beaucoup de scènes de chasse. Alors ça, c'est vraiment typiquement un produit que les Portugais ont aimé importer, hein. Il y a un auteur qui dit que au XVIe siècle, toutes les nefs en portent au moins 400 à Lisbonne, ce qui est peu. Mais c'est pas quelque chose qu'on va retrouver, par exemple, dans les archives de la Compagnie des Indes, vous voyez. Alors, ils vont tous se battre pour les mousselines surtout, parce que vraiment, encore une fois, j'insiste, c'est vraiment les, quand on voit certains commentaires aux ventes de Nantes, par exemple, au début du XVIIIe siècle, les ventes de la Compagnie des Indes au XVIIIe siècle, il y a des courtiers qui sont chargés de ramener des robes en ramage brodé d'or, et alors ils disent non, ça s'est arraché à près de 200 livres. Donc vous imaginez, 200 livres, c'est extraordinaire. Donc vraiment, les Européens veulent tous la production du Bengale. Et d'ailleurs, quand Robert Clive, qui est l'ennemi du Duplex, hein, donc les deux, je dirais, héros tutélaires de chaque Compagnie des Indes, il arrive dans le Bengale, la première chose qu'il fait, c'est qu'il brûle la production de mousseline et de toile des Français.
Voilà. Oui, on voit bien effectivement qu'il y a un combat commercial qui se double du combat militaire dans cette région du monde. Et aussi, ce combat commercial a des conséquences jusqu'au territoire français.
La grande quantité de toiles de coton peintes aux Indes ont donné lieu non seulement au transport de plusieurs millions hors du royaume, mais encore causé une diminution des manufactures établies de longtemps en France pour les étoffes de soie, laine, lin, chanvre, et en même temps, la désertion des ouvriers. Il faut donc empêcher le cours et le débit des dites toiles peintes, faire défense à toute personne, de quelque qualité et condition qu'elle soit, de les exposer, ni vendre, et aux particuliers d'en acheter. Celles qui seront trouvées dans les magasins seront brûlées. En outre, les ateliers installés dans le royaume pour imprimer les cotonnades blanches seront fermés et les moules utilisés pour ce travail seront brisés.
Voilà pour l'arrêt du Conseil du roi du 2 octobre 1686 qui met fin à l'importation des Indiennes et de beaucoup de tissus colorés d'Asie. Brigitte Nicolas, c'est important cet arrêt parce que ça montre qu'il y a une réticence des producteurs français à voir arriver en nombre ces tissus venant d'Inde.
Oui, absolument, puisque la France n'est pas en mesure de les réaliser. Donc les producteurs français trouvent que c'est une concurrence déloyale, puisque la Compagnie des Indes, c'est une compagnie d'État qui a le monopole de commerce au-delà du Cap de Bonne-Espérance. Donc ces tissus, ils arrivent avec un régime de commerce vraiment intéressant. Ils payent assez peu de taxes au trésor français. Donc c'est vrai qu'ils vont obtenir cette...
concurrence déloyale.
C'est une concurrence déloyale et cette interdiction débouche sur ce qu'on appelle la controverse du calicot, en fait, qui voit s'affronter les partisans du libre-échange et du commerce protégé. Et la réponse du gouvernement est assez pragmatique, puisqu'elle va autoriser la Compagnie des Indes à poursuivre son commerce des cotons blancs et des mousselines, ce qui fera 200 000 pièces par an à Lorient. Elle va interdire l'arrivée de ces indiennes et de tous les textiles colorés d'Asie, ainsi que certaines soies, mais qui pourront au bout d'un moment être réexportées hors du royaume. Hein, voilà, et ce sera une petite branche de commerce intéressante. Et puis, avec cette réponse, ça permet d'éviter de condamner la Compagnie des Indes qui, voilà, par exemple, en 1690, importait 60 000 pièces d'indienne pour 15 000 pièces seulement de toile blanche et 8 000 mousselines. Ah, et après, on va inverser complètement le phénomène. On verra 200 000 pièces de toile et de mousseline pour un petit millier, voire 4 000 pièces d'indienne.
Et pourtant, Aziza Grill-Mariotte, il y a quand même ces marchands arméniens et ces fabricants arméniens qui sont à Marseille et qui vont fabriquer aussi des indiennes. Alors, comment, comment voilà, se met en place ce commerce et cette prohibition
d'une certaine manière ? La prohibition, d'abord, ne touche pas uniquement les importations, puisque la prohibition, elle touche aussi la fabrication. Il y a déjà une fabrication en Europe. Alors, on parle beaucoup de Marseille, parce que Marseille a un statut de port franc. Et donc la franchise du port va lui permettre de continuer à produire, mais les ateliers existent déjà. L'arrivée des indienneurs du Levant, donc ces ouvriers arméniens qui arrivent du Levant, date du XVIIe siècle. Les premières traces qu'on trouve, c'est 1648, donc c'est antérieur à la prohibition. Et la prohibition, elle vise à la fois les ateliers de fabrication qui sont installés en France et qui vont produire des impressions très très ordinaires, alors que la Compagnie des Indes, elle, porte des indiennes très variées, mais aussi de très belles indiennes.
Oui, ça veut dire qu'il y a une technologie ou une technique qui est plus ou moins adaptée à la France à ce moment-là, mais qu'elle n'est pas au niveau de ce qu'on peut trouver sur le territoire indien.
Alors, le transfert des technologies via le Levant va se développer chez les maîtres quartiers, donc chez les fabricants de cartes, donc c'est des imprimeurs d'abord. Pour développer les indiennes, pour développer l'industrie des indiennes, il faut deux choses. Il faut les matières premières.
Donc
il faut la qualité.
Un tissu de très bonne qualité.
Voilà, les tissus de très bonne qualité. Or, les toiles qui arrivent du Levant et qui sont fabriquées à Marseille ne sont pas de très belle qualité parce que la production du Levant est très ordinaire. Tout simplement parce qu'au Levant, donc le grand centre de production, c'est Alep. Au Levant, on n'a aucun intérêt à développer la qualité puisqu'on fait provenir des Indes, des indiennes de très belle qualité.
Ah oui.
Donc il faut voir que l'investissement des indienneurs n'est pas forcément porté sur le haut de gamme puisque le haut de gamme, ils vont le faire venir des Indes. Tout le monde s'accorde pour que la qualité des Indes soit incomparable.
Et ça coûte moins cher, même presque finalement, d'importer.
Absolument.
Oui,
c'est plus rentable.
C'est quand même tout à fait intéressant, c'est qu'on est dans une époque de mondialisation du commerce, peut-on dire, Brigitte Nicolas, et qu'on voit bien effectivement toutes les implications de cette mondialisation du commerce par effet de domino d'une certaine façon.
Oui, oui, on est vraiment là dans la mondialisation du commerce, parce que ce qu'il faut dire, c'est comment on achète ces indiennes, enfin comment les compagnies des Indes achètent ces indiennes en Inde. Eh bien, tout simplement, avec l'argent qui vient d'Amérique, en fait. Hein. Donc, les Espagnols font venir à Cadix les piastres qui sont faites avec l'argent de l'Amérique, et le premier vaisseau de la Compagnie des Indes de la saison commerciale, qui part pour l'Asie, va s'arrêter à Cadix, prendre ses piastres, et c'est vraiment ce qui va permettre de les acheter, parce que les Indiens, finalement, n'ont que faire de nos productions européennes. Donc, on a là un flux de marchandises.
Qui vient d'Amérique, qui passe par l'Europe et qui finit en Inde et revient ensuite.
Voilà.
Et on oublie tout de même qu'effectivement, en partie, il y a aussi des arrêts qui se passent sur le territoire africain et que ces arrêts concernent aussi la mondialisation de ce commerce, puisqu'il y a là échange, effectivement, de certains tissus dans les ports africains. Contre le trafic d'esclaves aussi, en même temps.
Oui, ou l'ébène.
L'ébène,
l'or. Les indiennes.
Aziz Lagril-Mariott.
Les indiennes sont une monnaie d'échange pour le commerce africain.
Et
pour le commerce triangulaire.
Ouais.
Oui. Alors en fait, c'est vraiment, on le note, c'est vraiment une des conséquences de cette prohibition de l'indienne. La Compagnie des Indes va devoir trouver un débouché pour ces textiles colorés d'Asie. Et celui qui va s'offrir à elle, le plus simple, c'est celui, le commerce de la traite et le commerce de l'habillement de l'esclave. Puisque il faut imaginer que la production donc est sous la gouvernance de la Compagnie des Indes sur la côte de Coromandel, entre Pondichéry, etc.
On ne peut pas vendre en France.
On ne peut pas prendre en France. Par contre, il faut ramener ces textiles et les vendre à l'Orient, c'est une obligation, à la condition qu'ils soient réexportés à l'étranger. Et on voit bien, quand on lit les archives de la Compagnie des Indes, que tous ces textiles, les néganepo, les bajutapo, les corottes, les soucis, les coupis, ce que vous citiez tout à l'heure, qui sont des textiles à carreaux ou des textiles rayés, sont achetés par les armateurs négriers de Nantes. On a une très belle aquarelle de la Marie Séraphique, qui est un navire négrier nantais, qui emporte toutes ces marchandises pour les troquer avec des courtiers pour prendre des Africains qui vont être ensuite déportés dans les colonies de la Compagnie des Indes, que ce soit en Louisiane, que ce soit à Saint-Domingue ou que ce soit dans les Mascareignes. Et voilà, le produit de la vente de ces pauvres esclaves va pouvoir permettre d'acheter de l'indigo, du sucre, du café. Voilà, on est vraiment, encore une fois, sur de la mondialisation.
Oui, une mondialisation qui va toucher un peu partout les personnes qui se trouvent d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Voici par exemple un texte plus tardif de Moreau de Saint-Méry qui décrit l'île de Saint-Domingue, donc une île en l'occurrence qui est sous la tutelle française. Et il la décrit ainsi, cette île.
Lorsque l'Européen qui débarque à un asile, d'où il peut considérer le lendemain sans inquiétude, il doit s'occuper de ce qu'exige de lui le luxe de la mode. Il ne lui demande pas des étoffes riches, mais légères, des toiles que la finesse de leur tissu ait rendue très chère, et dont il relèvera la simplicité par des bijoux dont l'œil puisse être frappé. C'est le premier emploi qu'il doit faire de ses gains ou de son crédit. C'est la livrée coloniale. Ne la point porter. C'est se déprécier soi-même ou prendre l'air d'un censeur dans un pays où on s'est promis de n'en pas écouter.
Vous écoutez France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Une fabrique de l'histoire, troisième d'une série consacrée à l'histoire des textiles. Et aujourd'hui, nous parlons du trafic des tissus venus de l'Inde et de l'Asie jusqu'en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Et on voit bien effectivement qu'il y a là aussi une mode pour les colons, en l'occurrence Brigitte Nicolas, cette livrée coloniale dont nous parle Moreau de Saint-Méry à la fin du XVIIIe siècle.
Oui, absolument. Alors, elle est faite, la livrée coloniale, elle va être faite principalement avec des toiles très fines de coton qui arriveront de l'Inde via les vaisseaux de la Compagnie des Indes. Et puis dans ces îles, on retrouvera les fameux madras qui feront l'habillement des créoles, dont il parle également dans son ouvrage Moreau de Saint-Méry, en des termes assez amusants.
Et vous dites aussi, Brigitte Nicolas, qu'il y a dans ces cargaisons, bon, évidemment, des indiennes, hein, ça c'est le prohibé, mais il y a aussi le commerce des draps fabriqués en France, draps du Berry ou des manufactures rouennaises. On en profite, hein, tant qu'à faire, pour aussi exporter ses propres productions.
Absolument. Alors ça, c'est pour à destination de l'Afrique. En fait, oui, on essaye d'exporter les productions françaises, d'ailleurs en Inde aussi. Mais on remarque, en fait, quand on analyse les droits de coutume, les bonjours, c'est-à-dire les taxes en matière première que vont payer les courtiers de la Compagnie des Indes, puisque la Compagnie des Indes a le monopole du commerce en Sénégambie jusque 1758. Eh bien, quand on regarde les coutumes payées au roi Braque, au roi Siratik Boubar Kasséré, en effet, on essaye d'amener des toiles, des productions françaises, mais ce qu'ils aiment, c'est les toiles de l'Inde. Et puis, très précisément... De meilleure qualité.
Belle.
Et puis, d'abord, pour les uns, le bras qui veut des toiles rouges, le roi Siratik, c'est plutôt des jaunes. Et tout ça est très normé et très précis.
Aziza Grille-Mariott, pendant que la France interdit cette technique sur son sol, j'imagine que les autres pays sont plus libéraux, les autres pays européens. Qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne? Qu'est-ce qui se passe en Allemagne, en Suisse et ailleurs? Et comment, d'une certaine façon, les confectionneurs qui se trouvent dans d'autres pays que la France profitent-ils de cette absence de fabrication en France?
Et cette prohibition,
ouais. Et cette prohibition.
Alors, détrompez-vous, les autres pays européens ont aussi mis en œuvre une prohibition, notamment en Angleterre, mais les Anglais sont plus malins que nous, et ils ont mis en place une prohibition sur les indiennes. Ensuite, cette prohibition a été transformée par des taxes très importantes. En réalité, la Suisse et la Hollande sont les deux seuls pays européens qui n'ont absolument mis en œuvre aucune prohibition, et surtout, les autres pays européens ont mis en place une prohibition sur les indiennes, ce qui a contribué à favoriser la production locale, avec une grande différence pour la France, puisqu'on a une prohibition totale. Donc évidemment, la fabrication, à part donc à Marseille avec le port franc, et puis Avignon un petit peu, parce qu'on est dans une possession papale, on est dans les deux seuls endroits, les deux exceptions. Donc effectivement, quand la prohibition est levée en 1559, eh bien on a un manque de main d'œuvre,
un manque de connaissances et de techniques aussi.
Absolument,
peut-être. Personne
absolument.
Ne sait faire ce genre de tissu.
Voilà, à part les indienneurs marseillais et les ouvriers qualifiés, spécialisés, que l'on va chercher en Suisse et en Allemagne.
Parce que là, ils ont donc eu le temps de se former, de savoir les techniques qui sont nécessaires pour pouvoir fabriquer ces tissus peints, en particulier ces toiles peintes.
Oui, et puis il y a déjà eu une adaptation en Europe, puisque on imprime avec notamment des planches laitonnées, c'est-à-dire au lieu que les dessins soient réalisés avec le bois, c'est du métal qui rend la planche beaucoup plus solide. Donc on a déjà un transfert de technologie, on a déjà une adaptation qu'on va faire venir en France.
Voici ce qu'écrit justement en 1759 André Morlaix dans sa réflexion sur différents objets du commerce et en particulier sur la libre fabrication des toiles peintes. Daniel Königsberg.
Il y a déjà longtemps qu'on parle des toiles peintes en France, mais depuis 10 ans, on y a paru faire une attention plus sérieuse et plus suivie. Soit que l'inexécution des prohibitions sur la peinture et impression devenue plus générale ait frappé plus vivement les yeux sur cet objet particulier, soit que l'examen réfléchi des principes du commerce ait fait envisager de plus près les avantages et les inconvénients des prohibitions en matière de commerce. Quoi qu'il en soit, les parties intéressées ont fait entendre leur voix de tous côtés et le commerce a moins profité du nombre considérable de mémoires publiées à ce sujet. Il y avait déjà 13 ans qu'on veillait à cette prohibition. Cependant, le goût du consommateur, peut-être irrité par les défenses, subsistait toujours. Cette résistance universelle à l'exécution des défenses ne paraîtra pas tout à fait extraordinaire quand on fera réflexion qu'il semble qu'on ait pris à tâche d'accumuler sur cet objet les peines les plus rigoureuses, tant pécuniaires qu'afflictives, et que ces dernières ont été portées jusqu'à la peine de mort. Par l'arrêt du Conseil du 8 juillet 1721, qui, à dire vrai, n'a jamais eu ni pu avoir aucune exécution.
Voilà donc une histoire assez formidable. Le goût du consommateur peut être irrité par les défenses. C'est formidable, ça veut dire que malgré l'interdiction, tout le monde se débrouillait pour pouvoir s'en procurer.
Au contraire, même, l'interdiction peut-être va favoriser.
Oui, alors ce qui va favoriser l'usage de ces indiennes, c'est d'abord que c'est quand même une révolution vestimentaire pour le peuple, parce que pour la première fois, on a des étoffes colorées qui se lavent et qui sont extrêmement solides. Hein, voilà. Et puis la contrebande, elle est favorisée par le fait qu'on est entouré de pays qui produisent des indiennes, et puis on a les compagnies des Indes, les compagnies du Levant qui continuent à importer. Donc tout ça favorise. Alors c'est vrai que le paroxysme de la prohibition date des arrêts de 1721 auxquels fait référence André Morlaix, mais aussi de 1726, où alors la peine de mort, c'est pour les contrebandiers, hein, c'est quand même pas pour les gens qui la portent. En réalité, on va plutôt avoir des peines de galère, et il y a toute une littérature judiciaire où on se rend compte qu'il y a des confiscations, mais ces confiscations, les premières victimes, c'est évidemment le peuple. Hein, la marquise de Pompadour, quand elle meuble ses châteaux en Indienne, qu'elle fait venir par la Compagnie des Indes, elle ne repasse les lois. Alors, ce que André Morlaix fait référence à ce qu'on appelle la polémique des toiles peintes, qui dure une dizaine d'années quand même. Pendant 10 ans, il y a un certain nombre de débats au Conseil de commerce qui ont été étudiés par l'historien Serge Chassagne. Et ces débats au Conseil du commerce vont opposer les partisans de la politique de Louvois, qui, eux, veulent renforcer encore plus la prohibition, et de l'autre côté, les libéraux, qui vont au contraire partir du constat que de toute façon
laisser faire, laisser passer, quoi.
Voilà, et que on est dans une situation où la France est en train
de prendre du retard
du point de vue d'un développement économique, et il pose plus largement la question de l'industrie cotonnière en France. Donc ça va déboucher sur la levée de la prohibition.
Et parce qu'il faut dire que grâce aux marins en particulier, Brigitte Nicolas, à la pacotille que ramenait chaque marin de ses voyages au long cours, eh bien, on avait tout de même possibilité de s'en procurer à très fort coût, évidemment, de ces tissus théoriquement interdits.
Oui, la Compagnie des Indes est organisée, on va dire, certains directeurs même pour... alors, c'est pas une organisation officielle, bien entendu, c'est de la contrebande, mais on voit très bien l'arrivée de ces textiles prohibés, hein, pas que les indiennes, mais tous les textiles prohibés arrivent, à tel point qu'il y a là aussi une législation, des plaintes des directeurs de la Compagnie des Indes. On envoie la chaloupe des fermes, c'est-à-dire des douanes, au-devant des bateaux qui arrivent au large de Groix, pour éviter que les équipages dits pacotilleurs ou contrebandiers ne fassent débarquer de nuit les marchandises avant qu'elles n'arrivent au port de Lorient et qu'elles soient marquées aux deux extrémités des plombs et des marques de la Compagnie des Indes. Et je pense même que ça entraîne certaines catastrophes catastrophe maritime, parce qu'on a un vaisseau, l'Espérance, qui va naufrager pour une raison, alors on ne comprend pas pourquoi, aux îles du Glénan. D'ailleurs, ils sont en train d'essayer de la retrouver en ce moment même. Je les salue. Et on se demande vraiment pourquoi ce bateau qui arrive du Bengale, donc de l'Inde, avec forcément des marchandises prohibées, il va s'échouer là-bas. C'est probablement pour éviter les fermes.
Ouais, alors, on a compris qu'il y a un retard qui commence à être pris par justement les fabricants d'indiennes en France. Et pourtant, alors je cite cet Antoine de Beaulieu qui va faire de l'espionnage industriel en fait, et ça c'est dans les années 1730, pour essayer justement de comprendre la technique justement d'impression
des indiennes. Enfin, oui, la recherche d'Antoine de Beaulieu, c'est l'idée d'importer et d'installer à l'aide de la Réunion une production d'indienne. Donc il y a cette visée-là. Évidemment, ça va servir aux tenants, puisque pendant 10 ans, il y a un certain nombre de traités, il y a des écrits. C'est vraiment des échanges très très polémiques entre les tenants de la prohibition et les opposants. Il y a vraiment des débats, et c'est devenu une question politique. Et donc il va y avoir des pamphlets. Des deux côtés. Une estimation est faite dans le journal économique de 1655, donc on est près de 70 ans après l'instauration de la prohibition. Ils évaluent les pertes à 1000 millions de livres. Alors, c'est évidemment un chiffre qui est très exagéré, mais les chiffres, on se répond avec des chiffres. Voilà, vous nous dites que la prohibition va empêcher la sortie du numéraire, puisque c'est une manière de poursuivre en quelque sorte la politique de Colbert, mais en réalité, ça fait tout à fait l'inverse, puisque ce numéraire sort pour des toiles qui sont prohibies, alors qu'on pourrait développer une industrie nationale.
Mais alors, quand cette prohibition est levée en 1759, ça va être, j'imagine, c'est la course effrénée.
C'est la rue vers l'or.
C'est la course effrénée, en l'occurrence, à Zizagril Mariotte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors, ce qui se passe, c'est que sur tout le territoire, on a une multitude de fabriques qui ouvrent.
Secret.
Voilà, une multitude de fabriques sur tout le territoire.
Comme si tout le monde attendait ce moment-là.
Voilà. Et au bout de 10 ans, en fait, elles ont quasiment toutes disparu. tout simplement parce que le problème, c'est la main-d'œuvre, mais c'est aussi les matières premières.
On parle déjà des désindustrialisations. C'est-à-dire que oui, si on n'a pas les ouvriers pour pouvoir les savoir-faire, on ne peut pas faire.
On est dans une proto-industrialisation. Et puis surtout, il faut des capitaux. Il faut des capitaux parce que il faut pouvoir acheter des toiles de coton. Il faut
Machines aussi. Alors, Mariotte,
on n'est pas au tout début dans la première décennie de l'indiennage. On est quand même sur l'impression à la planche de bois, même si c'est de l'impression à la planche de bois laitonnée. Donc, on peut le faire dans des conditions qui sont des petites fabriques. On n'est pas encore dans les grandes manufactures, mais il faut quand même des capitaux. Et puis il y a des ouvriers qui sont débauchés, on est obligé de les embaucher à prix d'or. Et donc, et la réussite, enfin les manufactures qui tirent leur épingle du jeu dans cette période, c'est les manufactures qui sont notamment fondées par des Suisses à Nantes, ou la manufacture de Jouy qui est fondée. Alors Christophe-Philippe Oberkampf, il arrive à 18 ans, il arrive en France à 18 ans, avant même la levée de la prohibition, puisqu'en 1557, on autorise l'impression la teinture à la réserve. Donc il vient déjà dans ce cadre-là.
Et il est débauché. Il sait déjà faire, lui.
Et lui, le grand intérêt de Christophe Oberkampf, c'est quand il arrive, il sait dessiner, il sait graver et il sait imprimer.
Il a la technique.
Il a la technique et il a les relais via son père en Suisse pour obtenir de la main-d'œuvre, mais aussi de la matière première.
Et donc, dans cette floraison de manufactures qui ouvre après la levée de l'interdiction, c'est lui qui va tirer son épingle du jeu?
Alors, il n'est pas seul. Il y a les manufactures normandes, il y a les manufactures nantaises. Mais la manufacture de Jouy, c'est quand même un cas à part, parce que c'est la seule manufacture qui va exister seule dans un lieu. Il s'installe à Jouy-en-Josas, donc près de Versailles, parce qu'il cherche de l'eau et des prés. Mais les autres centres de production qui se développent généralement à production de grandes rivières et aussi dans des zones de commercialisation en frontière.
Brigitte Nicolas, quelles sont les conséquences justement de cette libéralisation sur ce commerce avec l'Inde, dont on a compris qu'il était interdit mais autorisé quand même, enfin on se débrouillait, et donc à partir du moment où il est fermement autorisé, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout compte fait, il y a de la concurrence venant
de ces fabriques françaises, mais la qualité des tissus reste toujours remarquable du côté de l'Inde, et j'imagine que ça ne tarit pas la source.
Voilà, dans un premier temps, eh bien, on voit à nouveau les Indiennes importer en masse, par exemple les grands palimpores, hein, ces grandes pièces qui servent de décoration, qui font 3 mètres par 2 mètres 50, on les retrouve en nombre dans la Compagnie des Indes, dans les ventes de la Compagnie des Indes. On en a 7800, par exemple, tout de suite après la levée de la prohibition. Et puis surtout, ce que vont chercher les Indienneurs, et notamment Oberkampf, c'est des toiles de qualité, planes, régulières. Et on sait très bien, par exemple, que Pourtalès, qui est un Suisse, va venir acheter énormément de marchandises à Lorient, hein, les fameuses percales, les guinées, qui vont permettre cette impression. Donc pour la Compagnie des Indes, dans un premier temps,
ça marche.
Et puis il faut dire aussi que ces Indiennes qui étaient désirables parce que prohibées, puisqu'elles circulaient sous le manteau, on le pense, assurément, eh bien les élégantes vont s'en détourner, puisque ça va devenir banal, finalement. Et qu'est-ce qu'elles vont trouver ?
Ce sont ces fameuses
mousselines, les mousselines des Indes qui vont faire les robes chemises, qui sont en apparence très simples, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, elles sont très chères, et puis le luxe va vraiment se glisser à nouveau sur les épaules des élégantes, parce que c'est tellement léger qu'elles auront froid, et il faudra les fameux châles de cachemire qui valent extrêmement cher également. Et tout ça, c'est la Compagnie des Indes qui importe.
En fait, la prohibition va fonctionner de façon commune, puisque la première décennie de l'Indien Âge reste quand même des productions relativement ordinaires. Donc, c'est l'Indienne du peuple, en réalité. Mm-hmm. Donc, on n'est pas dans une
concurrence... Vous voulez dire la première décennie de l'Indien Âge, c'est entre 1759 et 1770.
1770, voilà. C'est vraiment la première dizaine d'années. Et d'ailleurs, Oberkampf commence à imiter les très belles Indiennes à partir de la fin des années 1770.
Et donc, ces très belles Indiennes vont trouver à s'installer où ? Dans les décors bourgeois, dans les décors de ceux qui précèdent la Révolution française ? Comment ça va se passer ? Où va-t-il trouver son marché, d'une certaine façon, cet Oberkampf ?
Alors, de la même façon que les importations des Indes sont des étoffes de production, d'une variété de prix et de qualité extrêmement importante. La production des Indiennes en France, ou des toiles peintes, parce que même si elles sont imprimées, on les appelle les toiles peintes, sont extrêmement variées. À la fois par la qualité des étoffes, mais aussi par les motifs. Donc, Oberkampf, il propose des productions à des prix extrêmement variés. Alors, en ce qui concerne les très belles impressions, les imitations d'Indiennes, à la fin des années 1970, là, c'est vraiment une production de luxe qui est vendue par les marchands merciers du Palais Royal, et sa clientèle, c'est une clientèle de l'aristocratie européenne. Mmh. Voilà, à Londres, il en exporte aussi un certain nombre à Londres. Mais on est sur une production infime par rapport à l'ensemble de la production des manufactures françaises.
Ce qui doit être un crève-cœur pour vous deux, Aziza Grille-Mariotte, et pour vous aussi, Brigitte Nicolas, c'est que, évidemment, ce genre de matériaux se conserve moins facilement que d'autres matériaux, disons, proto-industriels du XVIIIe siècle, et donc que vos musées ont du mal à se procurer de quoi montrer ce qu'était justement cette variété d'Indiennes. Et non seulement de quoi les montrer, mais même de savoir ce que sont ces tissus que l'on retrouve parfois désourcés sans savoir d'où ils viennent et à quoi ils correspondent. Brigitte Nicolas.
Oui, c'est vraiment, je dirais, mon ambition, c'est de montrer toute cette variété de textiles qui arrivent de l'Inde. Donc c'est vraiment une recherche que je mène depuis 14 ans, à travers les archives, à travers des livres d'échantillons. Donc j'ai nettement progressé, et la collection du musée également, puisque maintenant on a environ une petite quarantaine de pièces pour montrer ces textiles blancs, ces textiles de soie, ces indiennes, évidemment, qui sont, je dirais, pour nous aujourd'hui les plus belles, parce qu'elles ont des motifs exotiques. La garance et l'indigo, donc ces couleurs rouges et bleues, font des pièces extrêmement colorées, avec un registre qui arrive un registre décoratif qui arrive de la Perse, de l'Inde, et c'est extrêmement beau.
Et pour vous, c'est plus simple pour la toile de Jouy, j'imagine. On a plus de tissus conservés, en l'occurrence, Aziza Grille-Mariotte.
Alors, on conserve beaucoup de toiles de coton, que ce soit des Indes ou de la production nationale, tout simplement parce qu'on en a produit énormément, et que les toiles de coton, contrairement à la soierie, se conservent quand même beaucoup mieux. Ce qui manque finalement, ce sont les indiennes très ordinaires, parce que ces indiennes, les indiennes du peuple, elles ont terminé en chiffon. Donc il manque beaucoup plus cette partie de la production, de la même façon qu'aujourd'hui dans les collections de costumes,
de musées
textiles, on conserve les pièces exceptionnelles, même pour des périodes très contemporaines.
Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas trop de problèmes pour pouvoir travailler en tant que spécialiste à toile de Jouy sur cette toile de Jouy elle-même?
Non, il y a énormément de sources. Et puis, on a aussi d'autres sources qui sont les inventaires après décès qui nous permettent de savoir comment ces étoffes étaient utilisées.
Oui, et ça, c'est important parce qu'effectivement, c'est l'usage.
Il y a toute la consommation, l'usage qui est tout à fait considérable, à la fois pour la décoration intérieure et pour la mode.
Oui, et ça a duré beaucoup plus longtemps que le XVIIIe siècle, puisque en l'occurrence c'est le fils d'Oberkampf qui vend en l'occurrence la fabrique créée par son père en 1821. Qu'en est-il ensuite? Est-ce que cette mode continue ou est-ce qu'elle s'interrompt au bout d'un certain temps?
Alors, le XIXe siècle va être marqué à la fois par les manufactures normandes et par les manufactures alsaciennes. La production du textile imprimé perdure pendant tout le XIXe siècle avec des modes différentes, des évolutions. On a une démocratisation au début du XIXe, c'est-à-dire que sous l'Empire, les toiles imprimées sont quand même nettement moins à la mode, mais il y a des cycles de mode. Et puis le Second Empire, on a toute une production sous le Second Empire de toiles imprimées pour l'ameublement.
Mais est-ce que cette industrie, en tous les cas des Indiennes, va permettre à l'industrie textile en général de progresser au moment de la révolution industrielle, etc., davantage, plus rapidement? Est-ce que ça a un rôle vraiment...
On s'oriente au XIXe siècle vers une production beaucoup plus luxueuse pour se distinguer des fabrications anglaises qui vont fabriquer plutôt du moyen de gamme. Et puis on rentre dans un autre cycle industriel puisque les entreprises, et notamment les grandes entreprises alsaciennes, elles font rentrer du fil de coton et vous avez l'indienne qui sort à la fin. Donc on est dans un cycle de production beaucoup plus large. C'était le rêve d'Oberkampf, d'ailleurs.
C'est cela. Brigitte Nicolas, vous êtes quelques, j'imagine, dizaines de spécialistes de ces questions-là dans le monde entier. Vous n'êtes pas être très nombreux.
On est très peu et c'est vrai que lorsque je demande à mes collègues des musées de costumes, on va dire, d'identifier certains éléments de costumes faits avec des textiles de l'Inde, ils sont totalement démunis parce que moi, je leur montre mes listes d'archives avec les noms qu'on a cités et vraiment, ils ne savent pas. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui.
De faire correspondre les uns
avec les autres. Voilà, c'est vraiment un travail de fourmi.
Merci beaucoup Brigitte Nicolas. Donc on peut aller visiter le musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis en face de l'Orient. Et on peut lire votre livre, Aziza Grille Mariotte, un très beau livre, 29 € aux presses universitaires de Rennes, Les Toiles de Jouy, l'histoire d'un art décoratif entre 1760 et 1821. Merci à Daniel Königsberg qui a lu les textes pour nous. Francesca Fossati et Aurélie Marcy ont préparé cette émission. Emmanuel Morse-Duncan était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Pas d'émission demain puisqu'il s'agit de la journée de l'Ascension et il y a la messe à la place de la fabrique. On se retrouve vendredi.